Deuxième sujet ce matin, cette vague, cette deuxième là, de dénonciation d'inconduite sexuelle, et c'est le président fondateur de Jury Pop, Marc-Antoine Cloutier, qui a été, disons, la dernière victime de la liste, c'est-à-dire qu'il a dû démissionner de son poste de président du CA parce qu'il fait l'objet d'une allégation d'inconduite sexuelle. Lise.
Ouais, alors... Au risque, moi aussi, de me faire lancer des tomates, je voudrais commencer en disant que, à un moment donné, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on veut, oui ou non, vivre dans un état de droit? Est-ce qu'on veut, oui ou non, préserver la notion de présomption d'innocence? Est-ce qu'on veut aussi faire une différence entre peut-être une tentative de séduction peut-être un peu lourde et une agression sexuelle? Parce que si on ne fait pas ça, je regrette peut-être que j'irai même avec ma consœur Denise Bombardier ce matin qui dénonce ce qu'elle appelle le féminisme de lynchage. Et dans le cas de Marc-Antoine Cloutier, c'est particulièrement, disons que l'histoire est porteuse parce que bon, il a 31 ans, il a travaillé disons que son parcours professionnel, on est un peu étonné de le voir un peu pris dans une controverse comme celle-là, où il aurait eu une inconduite sexuelle envers une amie à lui, une amie de longue date. Mais là, le gars voit sa carrière s'écrouler, sa réputation s'écrouler. Or, on ne sait pas ce qu'il a fait. On ne sait pas à qui il l'a fait. Autrement dit, on ne sait rien et on est supposé dire « Hey, ah ouais, c'est beau les filles, allez-y ». Moi, là, je suis désolée, je marche pas là-dedans.
Je vais me permettre une pression parce que je l'ai interviewé hier matin. Et ce que la victime présumée dit, c'est que au cours d'une soirée, ça reste à préciser, il s'est retrouvé dans sa chambre, aurait voulu s'allonger sur elle et se serait endormi. Et c'est quelqu'un avec qui il est ami depuis longtemps, enfin, qui était ami depuis longtemps et avec qui il y a eu aussi des différends. En gros, là, si je vais résumer l'histoire, là, enfin, les faits connus, c'est ça. Luc.
Madame Bombardier, oui. Je vais juste rajouter une chose. Madame Bombardier, ce matin, émet une hypothèse intéressante et c'est pas la seule fois que je l'ai entendue, que la plaignante, finalement, aurait été un instrument. Bon. Entre les mains de certaines féministes plus radicales qui n'acceptaient pas de voir un homme à la tête de Jury Pop. Peut-être que ça se tient, peut-être que non, mais j'ai remarqué une chose, c'est que avec le départ de Marc-Antoine Cloutier, au sein de Jury Pop, il n'y a plus un seul avocat de sexe masculin.
Luc.
Écoute, moi, j'étais de ceux qui trouvaient que cette vague de dénonciation était exagérée parce que je ne connaissais aucun cas autour de moi de personnes qui auraient été agressées ou qui auraient agressé. En tout cas, j'en entendais pas parler. Et puis, je me suis mis à parler aux uns et aux autres, aux unes et aux autres surtout. Puis, il y a deux personnes en qui je fais très confiance et qui m'ont révélé qu'elles avaient été victimes d'agressions et m'ont décrit les faits et c'était des agressions qui étaient graves. C'était pas le gars s'est endormi sur moi, là. C'était, quoique on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était bien pire que ça, là. Et bien pire que ça, des personnes fortes, des personnes qui ont réussi à ranger ça dans leur histoire, qui ont décidé de ne pas aller publiquement avec ces histoires-là. Parce que, pour toutes sortes de raisons qu'elles m'ont racontées puis que je comprends très, très, très bien. On imagine tout de suite le cirque médiatique, l'impression que cette personne-là se pose en victime, etc. Alors, on peut comprendre qu'il y a un mouvement qui s'est fait pour que tout n'ait pas à passer par la cour et qu'on puisse dénoncer certaines personnes en disant « ben là, ça va faire », parce que si c'est à chaque fois le poids sur les épaules de la femme, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et c'est trop cher payé. Et seulement quelques cas, on dit moins de 5%, vont finir par être entendus. Mais pour que ça fonctionne, le mouvement de dénonciation, il y a quelques règles de base qui doivent marcher. Donc, moi, je comprends le mouvement de dénonciation publique. Je comprends ça, là. Puis je l'appuie. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Mais encore faut-il que... Il y avait des règles jusqu'à présent, là. Et ces règles-là, c'est qu'on cherche des prédateurs. Donc, un prédateur, c'est quelqu'un qui a un comportement qu'il répète. Et les femmes savent que cet homme-là, il y a plusieurs femmes qui en parlent puis qui se disent, ben il y a des histoires qui courent sur lui et en le dénonçant, tout à coup, ça se cristallise et là, il y a plein de déclarations qui tombent les unes après les autres. Moi aussi, ça m'est arrivé. Attention, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ça, c'était la base du mouvement. Puis ça marche très bien. quand il y a un cumul. Parce que quand il y a un cumul, tu te dis, OK, j'ai peut-être pas besoin de fouiller chacune des histoires. Parce que là, à un moment donné, quand ça fait 8, puis 9, puis 10, puis 15, ben là, quand bien même qu'il y en aurait deux ou trois qui sont des interprétations ou que c'est pas clair, etc., au nombre, à un moment donné, tu te dis non, et là, il y a bien plus de questions. Là, et la dénonciation devient justifiée. Mais quand t'as un seul cas qui dénonce une seule personne, là, ça, le cumul se fait pas. Là. La notion de prédateur n'existe pas. Alors, le chemin public, le chemin de passer par le média, les médias pour faire cette dénonciation-là, il marche plus. Il est plus légitime. Et je pense que les médias ont une responsabilité. Je trouve que la presse et le devoir qu'on avait fait la moitié de sa une le samedi, puis la presse qui a fait un éditorial, j'ai trouvé ça fort. J'ai trouvé ça très, très fort.
Mais je vais juste faire une parenthèse. Parce que avec mes collègues Monique Néron et Émilie Perrault, quand elles ont travaillé le dossier de Gilbert Rozon, et moi, c'est là que j'ai un bémol, pas sur le fait que des gens dénoncent, mais sur le fait qu'il faut quand même prendre un peu de temps pour vérifier un certain nombre de choses. Dans le cas de Rozon, on avait une série, en fait, les filles avaient une série de victimes qui avaient accepté de parler, victimes qu'elles ont rencontrées. On leur a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous vous êtes confié à l'époque? Qui pourrait corroborer ce que vous dites. Et on a accumulé, elles ont accumulé, en fait, tous ces éléments-là. Il y a un avocat qui a regardé ça. Avant de sortir publiquement, on a informé Rozon de ce qui s'en venait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une démarche qui a été faite.
Ouais.
Tu comprends? C'est pas juste j'écris un message sur Twitter ou sur Instagram à 10 heures le soir, puis, tu sais... je comprends des gens qui veulent pas aller porter plainte à la police ou aller vers le système, mais quand t'as un minimum de recherche journalistique ou en tout cas de dire « ouais, là, ça commence à être sérieux parce qu'il y a bien du monde » ou encore parce que ça se valide puis ça se confirme. Je pense qu'il y a une différence entre les deux, Lise.
Oui, oui, t'as raison, Paul. Absolument, t'as raison. Puis c'est moi aussi, je comprends tout à fait les femmes qui choisissent de ne pas aller. J'aimerais que plus le fassent parce que on changera pas le système si on s'en sert pas. Autrement dit, mais bon, c'est un autre débat. Mais chose certaine, c'est que dans ce cas-ci, qui est pour moi un cas potentiellement de dérapage, à moins que de nouvelles informations sortent, je pense le cas de Maître Cloutier. Tout d'abord. Une ou un journaliste ne pourrait pas rencontrer la plaignante parce qu'elle ne veut pas être connue. Donc, ça demeure derrière un écran. Donc, tu peux pas l'interviewer, tu peux pas avoir... Et la directrice générale de Jury Pop, parce que les autres sont pris, là. D'un côté, il y a des accusations pas vraiment anonymes parce qu'elles savent de qui il s'agit, et monsieur aussi, mais des accusations, comment dirais-je... Ben, on connaît pas la victime. Ça, c'est en train de se passer. Mais en même temps, du côté de Jury Pop, on croit toutes les femmes. En partant, c'est le principe. Alors, elles sont obligées de croire une personne qui demeure anonyme et cachée, qui accuse leur fondateur de quelque chose qu'on ne sait pas. Hey, minute, là. Et la directrice générale, ce que j'allais dire, Sophie Gagnon, qui, en entrevue, je pense à TVA, a dit que, dans le fond, on pouvait quand même pas forcer la plaignante à démontrer sa crédibilité. Avec la bouche d'une avocate, moi, ça m'inquiète, ça.
Ouais. Et puis aussi, il y a autre chose, il y a la réaction de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on a vu on a vu l'Assemblée nationale, la politique en règle générale, dans ce qu'elle a de pire, de plus infantile, de
ça,
plus
ça, c'est
immature.
Comme l'affaire Weinstock, on saute là-dessus.
C'est parce que là, t'as pas le choix. Là, c'est les directeurs de cabinet qui ont les choses en main. À partir du moment où Mme Melançon dit « qu'est-ce que fait le gouvernement? » Tu penses bien que le gouvernement est obligé de dire « on va faire enquête ». Que ça soit important ou que ça soit pas, ils veulent pas passer en deuxième, ils veulent pas donner l'impression, Mme Charest veut pas donner l'impression qu'elle a une indifférence par rapport à un cas. Alors,
surtout qu'ils leur donnent de l'argent à Jury Pop.
Ben oui, fait que là, bidding, bedang, les déclarations, etc. Mais ça, c'est de la poutine politique, là. C'est de la poutine politique de...
Ouais, mais c'est pas étonnant parce que la plaignante qui a travaillé dans le milieu politique a fait le tour de cabinet ministériel pour raconter son histoire. Alors, ouais, c'est pas surprenant.
Oui, mais en même temps, c'est comme ça que la politique fonctionne. À partir du moment où quelqu'un, l'opposition dépose une phrase disant « Nous autres, on s'en serait occupés », le pouvoir n'a pas le choix de dire « Ben, nous, on va s'en occuper, puis mieux que vous. » C'est comme ça que ça marche. Mais,
c'est vrai.
Mais ça, c'est puant, là, c'est ça la politique. Mais regarde, autre chose. Moi, ce que j'aime pas dans tout ça, un truc, j'ai dit tantôt là que c'est un système qui fonctionnait, la dénonciation là, publique. Mais il y a aussi un aspect, il y a des moments où ça fonctionne plus, où ça fonctionne moins, c'est que la popularité de la personne remplace l'importance du geste posé. Je m'explique. Ce qui fait beaucoup de bruit, c'est pas que le geste soit grave. Ce qui fait beaucoup de bruit, c'est est-ce que la personne est connue. Si tu dis Yann Perrault a mis la main aux fesses d'une fille dans un bar il y a 15 ans, bon, la main aux fesses d'une fille dans un bar il y a 15 ans, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? On ne sait pas exactement, mais tout ce qu'on a, c'est cette information-là. À première vue, elle n'a pas l'air très grave, mais tout à coup, tu as le nom qui vient avec, Yann Perrault, puis là, ça fait bidding, badang, là, je veux dire. Là, ça frappe, là, tu sais. Et ça, cette idée-là que c'est l'importance médiatique de l'événement qui est plus importante que l'événement lui-même, ou que la gravité de l'événement lui-même, ça met toutes les agressions sur la même... à la même hauteur, au même niveau. Alors, elles ne sont pas toutes au même niveau. Et la justice a ce travail-là de distinguer la farce cochonne de l'agression, la vraie agression, ou la main aux fesses, ou tu sais, c'est pas tout le temps la même chose, là. Et dans les médias, c'est tout le temps la même chose.
Parce que ce qui va se passer, c'est que si on continue sur cette voie-là, celles qui vont écoper, ben, c'est encore les femmes et les victimes.
On s'arrête là-dessus, puis convaincu qu'on va y revenir, parce que le sujet va évidemment rebondir. Merci à tous les deux. À demain, on arrive à 9h, et puis on va se promener sur l'autoroute 20.